Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir dans ce cadre merveilleux avec le chant des oiseaux, dans un château qui devient donc littéraire aujourd'hui, en très très belle compagnie, vous allez le voir, Madeleine Assas, Sandrine Berthet et Bibiana Candia, qui est à nos côtés également, ainsi que Florence, son interprète aujourd'hui. Je vais vous les présenter en quelques mots. Madeleine Assas voit le jour à Oran, en Algérie, mais elle grandit dans le sud de la France et vit aujourd'hui à Arles. Elle effectue des études de lettres et après une maîtrise, elle monte à Paris où elle devient comédienne de théâtre et de cinéma, notamment avec Godard. Elle avoue avoir toujours été une écrivaillarde, écrivaillante, je ne sais plus comment vous dire, écrit quelque chose. En tout cas, il y a un lien avec aujourd'hui, c'est sûr. Et alors qu'elle a signé un livre pour la jeunesse, Je ne dirai pas le mot, chez Actes Sud Junior, elle a publié après 10 ans d'un livre qui n'arrêtait pas d'être en gestation dans sa tête, Doorman, aux éditions Actes Sud. Doorman étant un gardien d'un immeuble new-yorkais qui incarne le rêve américain à l'image de tant d'immigrés qui ont quitté leur pays natal, à savoir l'Algérie dans son cas, un pays qu'il va essayer d'effacer mais qu'il va revenir d'une manière ou d'une autre. À mes côtés, Sandrine Berthet qui est là aujourd'hui, qui est née à Auxerre, elle a grandi en Nouvelle-Calédonie avant de s'installer à Paris où elle a fait des études de gestion et de l'ENA. Elena, pardon, c'est à la belge, hein, on dit un peu... C'est pour que ça fasse moins prestigieux. Après avoir œuvré dans l'industrie comme cadre dirigeante, ce métier qui l'a d'ailleurs poussée à voyager dans le monde entier, elle travaille aujourd'hui comme haut fonctionnaire dans ce même domaine qui est donc l'industrie. Jetée aux ténèbres, aux éditions du Sonneur, ravive une histoire oubliée qui est celle des communards qui, après avoir connu la prison, vont être envoyés en 1872 de l'autre côté de la planète, en Nouvelle-Calédonie, une histoire qu'on va découvrir à travers le personnage d'Étienne Delandre qui nous raconte cette aventure à la fois sociologique, politique et surtout humaine. Et à mes côtés également, Bibiana Candia, nació en Coruña, en Galicia, en Espagne, en 1977. Elle a fait des études de littérature espagnole, journaliste aujourd'hui pour deux magazines culturels et écrivain. Elle se découvre petit à petit à travers des recueils de poésie comme La Rueda del Hamster, j'essaye, hein, La Roue du Hamster,
très bien, très bien.
Et, ou La Trapecistas No Tenemos Novio, un titre extraordinaire. Les trapézistes n'ont pas de fiancés, donc à vous d'imaginer la suite. Ou un recueil de nouvelles, El Pie de Kafka. Son premier roman qui s'appelle Azucre, qui veut dire le sucre, dans quelle maison d'édition?
Actuel, Pepitas de Calabaza.
Ah ben heureusement, hein, c'est qui vaut mieux. Elle nous plonge également dans une histoire réelle qui commence en Galicie en 1853, face à la destruction des récoltes et à l'apparition du choléra, comme quoi il y avait autre chose avant le Covid. 1700 jeunes vont partir à Cuba afin d'espérer construire un avenir meilleur, mais ils vont se heurter à un cauchemar. Bonjour à toutes et merci d'être avec nous aujourd'hui. Madeleine, l'un des personnages qui s'appelle Pinchus, dit qu'il n'aurait pas assez de toute sa vie pour lire les livres dont il aurait envie. Un problème, je pense, qu'on a tous ici. Et pour vous, qu'en est-il de cette passion de la littérature? Comment elle est née?
Oh, elle est née dès que j'ai su lire. Enfin, déjà, les livres, la page imprimée m'intéressait beaucoup quand j'étais petite, hein, plus que les jouets. Enfin, je trouvais ça assez mystérieux. Et puis, dès que j'ai commencé à savoir lire, ça a été pour moi le paradis, dans le sens où, petite fille assez solitaire, j'avais besoin toujours de m'extraire un peu du tumulte familial. Non, mais dans le bon sens, hein, mais c'est vrai que c'était... Et c'était ma terre promise. Donc j'ai dévoré les... À mon époque, il n'y avait pas cette magnifique production de littérature jeunesse. Hein. Faut dire, on était la bibliothèque verte, rose ou Bécassine. Enfin, bon, c'était quand même assez... Donc très vite, en même temps, la chance, c'est que finalement, assez tôt, j'ai commencé à lire les classiques, voilà, lire le Zola... à 10 ans, bon voilà, ça, tout ça c'était. Et puis c'est là où on s'aperçoit qu'un livre cache un autre livre, un livre cache un autre livre, les rencontres qu'on fait. Ah, tu as lu ça. Et comme Pincus, je crois que c'est une catastrophe. Enfin, et en même temps, je m'y résigne, je suis résiliente, je n'aurai pas de toute ma vie, même de 1000 vies, pour lire tous les livres. Mais il y a toujours un, voilà, il y a toujours un, c'est toujours une niche pour moi extrêmement précieuse, consolatrice, évidemment aussi, on y apprend aussi beaucoup de choses, mais c'est vraiment, comme je le disais hier, pour moi les livres sont les meilleurs amis, c'est vraiment votre meilleur ami, le livre.
Sandrine, Madeleine nous parlait de la terre promise. Vous avez grandi sur une autre terre, encore qu'elle est peut-être promise aussi en Nouvelle-Calédonie. C'est une culture qui est profondément ancrée justement dans l'oralité, dans l'art de transmettre des histoires. Est-ce que vous pensez que ça nourrit votre imaginaire ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que quand j'étais là-bas, je pense que ça a changé, mais à l'école, comme dans le milieu social, on ne fréquentait pas les Kanaks. Et le programme scolaire était nos ancêtres les Gaulois, et on n'avait jamais le temps de faire l'histoire locale. Donc, si j'ai lu un recueil d'histoire calédonienne, et je crois que c'est absolument tout, qui était des histoires, en plus, écrites par des Caldoches, par des descendants de Banya. Donc, ça n'a pas du tout... Et j'en connais beaucoup plus sur la Nouvelle-Calédonie sous l'angle, notamment culture kanak, depuis quelques années, alors que je n'y vis plus depuis très longtemps, parce que sur place, ça n'était pas le cas. Mais je crois que ça a un peu évolué maintenant, mais c'est assez... On est un peu hors sol. J'étais un peu hors sol avec ma communauté, en fait, à l'époque.
Comme les expatriés.
J'ai beaucoup fréquenté les expatriés. La différence, c'est que c'est quand même votre langue. Et en fait, non, surtout, la culture dominante est la vôtre. La culture dominante à travers l'école, à travers les médias, à travers tout, en fait, à travers l'importance des postes dans l'administration, c'est la culture française. C'est un bout de France, un peu loin. Donc, c'est assez différent de ce point de vue-là. Mais vous êtes expatrié par rapport à la terre elle-même qui est là avant l'arrivée de la France.
Et cette passion de la littérature, elle est née à l'école, justement, ou à la maison ?
Elle n'est pas née à l'école parce que j'étais affreusement polarde. Et je lisais les livres parce que ça faisait partie du programme. Et que si on les lisait bien, on avait des bonnes notes. Non, j'ai découvert la littérature vraiment en deux fois. Je me souviens qu'au collège, en m'ennuyant, j'ai fini par aller à la bibliothèque et j'ai découvert Mauriac. J'étais profondément athée, donc c'est vraiment pas le côté catholique qui m'a séduit, mais c'est l'austérité et une certaine rigidité, mais dans le bon sens. Il y avait un cadre, et sous les cocotiers, il y en avait quand même beaucoup moins. Donc ça a été un premier choc, mais après, il a été englouti par la scolarité, donc j'ai lu beaucoup, mais ça n'était pas du tout de la lecture, à mon sens. Et c'est revenu après, quand j'ai pu m'extraire de la scolarité, où là, j'ai vraiment commencé à lire, et du Hermann Hesse ou des gens comme ça, un peu des romans aussi d'initiation, si je puis dire, comme Siddhartha. Et là, c'était plutôt vers 18 ans. Et là, ça a vraiment commencé et ça ne s'est plus arrêté.
Mm-hmm. Bibiana, comment est né votre amour de littérature et en quoi est-ce que vous diriez qu'elle est ancrée peut-être dans votre terre de Galice ?
Pues bueno, por un lado, en ese sentido, yo no vengo de una familia de lectores ni de grandes aficionados a la literatura. En mi casa había unos pocos libros bestsellers y algunas enciclopedias, nada más. Pero por otro lado, tenía un abuelo, porque yo me crié en casa con mis abuelos, que casi no sabía leer y estaba obsesionado para que yo aprendiese a leer, para que leyese para él. Entonces... Yo no recuerdo la transición desde no saber leer a saber leer. Yo me recuerdo a mí misma toda la vida leyendo desde siempre. Entonces, para mí leer era parte de mí, era parte de quién soy. Y hoy en día volver a la lectura, sobre todo a la lectura despreocupada, es como volver a la infancia, es como volver a ser niña y estar en un territorio donde nadie te puede importunar porque es como tu territorio de juegos, es la libertad absoluta. Y bueno, siendo de Galicia, donde hay una tradición de literatura oral muy grande, esto también me unió mucho, pues bueno, a la memoria desde el inicio, está unida a la memoria de mi propio abuelo, porque yo leía para él muchas veces, y está unida a la memoria de mi propia familia, porque las historias que se contaban muchas veces, tradicionalmente, son, por un lado, historias de familia y, por otro lado, historias inventadas sin ninguna distinción, y todo forma parte de la misma memoria nuestra que une un poco la realidad y la ficción. Y yo creo que sí, eso está un poco bastante insertado en lo que ha sido después mi camino literario. Excusez-moi. Excusez-moi.
Pas de problème. Alors, j'ai une famille de... Je n'ai pas une famille de lecteurs. Donc, j'ai lu peu de livres dans mon enfance, mais j'avais un grand-père qui m'incitait à lire constamment et qui ne savait pas spécialement lire, qui n'était pas forcément lié à la littérature. Et cela a fait que j'ai tout de suite eu cette habitude et, en fait, je n'ai pas le souvenir de ne pas avoir lu. En fait, toute ma vie, j'ai lu. Actuellement, j'éprouve beaucoup de plaisir à retrouver la lecture plaisir. J'ai eu un territoire de jeu en Galice avec une liberté absolue, puisque c'est un territoire où la littérature orale est vraiment très importante. Et j'ai uni la mémoire de mon grand-père, cette mémoire orale des traditions locales, avec une histoire inventée. Donc, c'est un mélange entre histoire familiale et histoire inventée, un mélange entre fiction et réalité.
À vous. Madeleine, le livre et les mots, ils font pleinement partie de vous. Ils sont nés d'abord sur scène en tant que comédienne. À partir de quand est-ce que vous avez ressenti le besoin de trouver vos mots, d'incarner vos propres personnages dans l'écriture romanesque ?
Je crois que je reviens vraiment à l'enfance. Je pense que dès l'enfance... je m'inventais des histoires. Et en fait, je crois que de toute façon, ce qui est commun entre le métier de comédienne, enfin moi je travaille surtout au théâtre, et l'écriture, je pense que le point commun, c'est quand même la volonté de raconter des histoires. Vous jouez un rôle, là prochainement je vais reprendre Toinette dans Le malade imaginaire, je raconte l'histoire de Toinette, ses rapports avec le malade. Enfin, il y a toujours quelque chose d'un partage. Là évidemment c'est oral. Mais je crois que je me suis toujours raconté des histoires. J'avais toujours besoin de... Mais ça pouvait être avec trois cailloux, deux feuilles. Après, quand j'ai appris à lire, à écrire, évidemment, c'est passé par l'inévitable et l'évitable journal intime. Enfin, bon, une catastrophe. Comme voilà. Et je pense que... quand l'idée du Dorman, ou les histoires que j'ai pu un peu écrire... d'ailleurs, l'histoire là qui est pour ado qui est sortie là, qui a été publiée la semaine dernière, je l'avais écrit bien avant le Dorman. Mais je pense que c'était une volonté. Un jour, je me suis dit, je voulais écrire, bon, à l'occasion d'un voyage, je voulais écrire sur New York. Je voulais donc, je sais pas comment. C'est d'abord l'histoire toujours qui est venue, cette histoire qui est. Mais même pour moi-même, c'était même pas. D'ailleurs, quand j'ai commencé à vraiment l'écrire, je me suis dit, je veux l'écrire parce que c'est maintenant. Il y avait une urgence, mais je ne pensais pas même me faire publier. Je me dis, au moins, je vais le faire. Et puis, même si elle reste dans un tiroir, ça, je l'aurais fait parce qu'il faut que je le fasse, voilà, avant que de disparaître. Et donc, c'est vrai que je pense que je voulais raconter une histoire. Et après, il y a le travail des mots, de la... Mais c'est avant tout de... Je pense que c'est avant tout cet imaginaire d'inventer comme ça les situations, mais comme presque de retrouver, d'ailleurs, je l'ai retrouvé, ce plaisir ludique, que je peux retrouver d'ailleurs sur scène, le plaisir ludique d'improviser, de me dire, tiens, aujourd'hui, je suis le doorman, ou je suis le vieux juif, ou je suis le... qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Et à chaque fois, d'être en état de... comme une sorte de jeu de rôle, et de jeu de rôle, qui peut être drôle aussi. C'est mauvais. C'est très mauvais, merci. Et voilà, donc je pense que c'est avant tout, je pense qu'avant les mots, c'est vraiment voilà, raconter une histoire et me mettre moi-même en situation.
Sandrine, Madeleine vient d'évoquer le mot urgence dans votre roman. Il y a une urgence de survivre, évidemment, avant tout. Et néanmoins, on voit que la poésie, les livres et l'écriture, ne serait-ce que l'écriture de lettres ou de journaux intimes, là aussi, deviennent d'une importance cruciale pour vos personnages. Vous rendez d'ailleurs un très bel hommage à Louise Michel, qui redevient à un moment donné une institutrice engagée à Nouméa. Pourquoi est-ce que la lecture, la littérature nous aide à comprendre le monde, comme vous écrivez, et à donner des armes pour se battre contre l'injustice et la servitude?
Elles en donnent seulement à certains, je pense. C'est-à-dire, par rapport à... Vous faites référence donc à certains des déportés qui... Donc, ils n'avaient absolument rien à faire pendant des années. Et dans ce cas-là, on devient rapidement fou, quand on n'a vraiment rien à faire. Donc, ceux qui étaient d'origine intellectuelle ont essayé de sauver leur peau en lisant, effectivement. Mais c'était plus pour tuer le temps, pour ne pas mourir eux-mêmes. En revanche, justement, ceux qui ont beaucoup plus mal vécu cette déportation, c'est ceux qui n'étaient pas des intellectuels, dont le travail était manuel, et ils étaient les plus nombreux. Toute leur vie, depuis l'âge de 9 ans, 10 ans parfois, ils avaient été ouvriers, artisans, en fait. À l'époque, on ne disait pas prolétaire, mais c'est cette idée-là. Et du coup, du jour au lendemain, ils ne peuvent plus travailler. Ils n'ont plus non plus leur famille ni rien, donc ils n'ont vraiment plus rien. Ceux-là ont plutôt sombré dans l'alcool. Ils n'ont pas, quand vous n'avez pas l'habitude de lire, vous ne vous y mettez pas comme ça. Donc, ça a pu sauver ceux qui étaient déjà un peu là-dedans. Après, dans des contextes plus normaux, oui, je pense que... je pense que c'est vraiment indispensable. Enfin, ça apporte une dimension à la vie qui est... Je ne saurais pas vivre sans. Il y en a qui y arrivent apparemment, mais je ne sais pas comment ils font.
La thématique de l'exil, on va le voir, apparaît sous différentes formes dans vos livres. Bibiana, vous évoquiez votre grand-père qui était analphabète, votre grand-mère aussi. Vous avez parlé d'elle un jour en disant qu'elle avait arrêté l'école à 12 ans. Donc, ils ont été en quelque sorte exilés du monde de l'école et de la littérature. En quoi est-ce que ça a freiné leur élan dans la vie ou au contraire donné un autre sens à leur vie ?
De alguna manera, yo creo que por una parte ellos se sentían muy, muy acomplejados por no tener educación, muy, digamos, sumisos ante cualquier mínima autoridad que hubiese delante de ellos. Eran personas que, tanto mi abuelo como mi abuela, eran personas que siempre habían tenido, bueno, pues trabajos no cualificados y claro, y sobre todo, además... Eso también hacía que cualquier, digamos, palabra escrita sonase como una autoridad muy grande. Todo lo que estuviese escrito, todo lo que saliese en el periódico, todo lo que saliese en los libros, era de un conocimiento enorme, impresionante. Trasládelo ya y yo luego ya continúo.
Donc, mes grands-parents se sentaient vraiment complexés du fait de ne pas avoir eu d'accès à la culture et au savoir. Et en fait, ils se sentaient soumis envers toute autorité, puisqu'ils n'avaient pas de profession qualifiée. Et toute autorité était donc perçue comme quelque chose de monumental. Et tout ce qui venait du journal, tout ce qui venait de l'écrit, était un savoir vraiment impressionnant pour eux.
Claro, y eso hacía... Eso a veces a mí, yo sobre todo cuando era más joven, no lo entendía. No entendía esa actitud tan sumisa o esa actitud de no contradecir nunca nada, porque eso, claro, yo tardé tiempo y madurez, obviamente, en entender pues, que eso venía, por un lado, de una dinámica de aceptar, de vivir aceptando siempre las órdenes de los demás, de no cuestionar nunca nada y de justamente no tener el entrenamiento de haber podido leer, confrontar puntos de vista y tener el ejercicio que te aporta, el ejercicio mental que te aporta la lectura, el estudio, etc. Y durante mucho tiempo no lo conseguí entender. En cierto modo, escribir la novela que escribí me hizo comprender que a veces esas dinámicas, aunque sea un tabú del que no se hable, sigue afectando a las siguientes generaciones.
Quand j'étais plus jeune, je n'arrivais pas vraiment à comprendre le fait qu'il n'arrivait jamais à contredire, à remettre en question certaines choses. Et j'ai mis du temps à accepter cela. La lecture, c'est vraiment cet exercice mental qui permet justement de remettre les choses en question, d'avoir une distance critique. En écrivant ce roman, j'ai compris que la génération suivante pouvait être affectée par cet état de choses.
On parle des générations suivantes, je pense à votre roman aussi, parce que tous les trois, même si ce sont des romans et des fictions, contiennent des événements réels. Dorman est né de votre imaginaire, mais les origines de Dorman ne le sont pas, puisqu'il est né en Algérie. Il a quitté ce pays en plein conflit. Pourquoi est-ce que vous aviez envie de vous baser sur ces faits-là? Comment vous les avez ravivés, sachant que vous êtes né là-bas aussi?
Oui, évidemment, ça me touche personnellement. Et puis, c'est aussi l'héritage, enfin, mes parents. Mais j'avais envie de parler de cette ville qui est très contemporaine et qui était encore dans ces années-là une terre d'asile. Mais je voulais quand même faire une sorte de traversée, puisque le roman commence dans les années 60, je voulais quand même qu'il y ait une sorte de traversée antérieure et aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui, moi, est quelque chose... c'est un événement pour nous tous, hein, mais voilà. Je voulais partir de là, en fait, parce que c'est lié aussi, évidemment, à l'enfance de ce Dorman qui est né en 1933. Et que les germes de son départ, qu'on pourrait dire sa fuite, de sa fascination pour l'Amérique, naissent de ces années-là, de cette particulièrement l'année 42, quand il y a eu en Algérie le débarquement de l'armée américaine qui a pour une certaine communauté sauvé une communauté qui aurait pu, puisque l'Algérie était à ce moment-là sous les lois de Vichy. Et c'est vrai que l'arrivée je voulais parler un peu de l'enfance, je le faisais naître en effet, c'était la génération de mes parents, mais je voulais que ce Dorman, on ait quand même un retour, pas tout de suite d'ailleurs, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est venu à un moment donné, je dis il faut qu'on le voit comme un enfant et qu'on comprenne pourquoi c'est pas l'Amérique, c'est pas mon Amérique à moi, c'est son Amérique à lui. Et son Amérique à lui, c'est la rencontre avec ce soldat américain qui devient une sorte de héros, de Superman étranger, et qui, je pense qu'il garde ça jusqu'à son âge adulte, même si après il y a ce chemin qu'il fait jusqu'aux années 60 où il va vivre les événements, enfin les vivre sans les vivre. Comme beaucoup d'ailleurs de gens là-bas qui vivaient plus tôt, ils sont vraiment les soucis. Enfin, l'insouciance est restée très très tard, je pense, dans la communauté européenne, alors qu'il se passait déjà des horreurs dans la montagne. Et je pense que la Première Guerre mondiale lui enlève son père, la guerre d'Algérie lui enlève sa mère. Donc c'est deux guerres qu'il est. Il a une double blessure, une double amputation. Et je crois que j'avais besoin, le pauvre, de lui infliger ça, peut-être. Mais c'est chronologique, hein, c'est années 60, donc automatiquement, je suivais logiquement les années pour qu'il se retrouve, en effet, nouveau, vierge, pour commencer, en fait, sa vie et se réinventer une sorte de nouvelle naissance dans cette grande ville étrangère, ce tohu-bohu, ce chaudron magique et en même temps aussi maudit, parce qu'on peut s'y perdre. Voilà, c'était se perdre et aussi pour essayer de se trouver.
Vos personnages aussi vont se perdre d'une certaine manière, on va en parler, Sandrine, mais ce roman, là aussi, se base sur des faits réels. À la fin de votre livre, vous écrivez que ce n'est pas tant le souci d'authenticité qui vous habitait, mais l'envie de faire résonner leur voix, l'envie de faire revivre ces déportés, ces oubliés de l'histoire. Pourquoi ?
Je me suis fascinée depuis longtemps par les gens qui s'engagent pour quelque chose de grand et qui les dépassent tellement qu'ils sont prêts à mourir pour ça. C'est quelque chose de... Enfin, il n'y a pas grand-chose de comparable, je trouve, dans la vie. Je pense souvent, enfin, comme beaucoup de gens, qu'est-ce que j'aurais fait pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas savoir. Et donc, j'ai une fascination pour ces gens-là. Il y en a aussi de nos jours. Ils sont plutôt dans des dictatures. Je veux dire, c'est pas quelque chose du passé, cette attitude. Et c'est ça, au début, sur lequel j'ai eu envie d'écrire. C'est sur des gens qui s'engagent pour une cause que personnellement je trouve juste, la justice sociale, l'égalité entre les gens, et qui sont prêts à aller très très loin. Parfois ça les dépasse aussi. Donc je l'ai écrit parce que je me demandais, une fois que ça s'est écroulé, une fois qu'on a perdu ce qui vous a fait vivre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on passe le reste de sa vie? Alors, ils commencent à passer le reste, enfin, ils passent le début du reste de leur vie de toute façon en exil et en déportation. Donc, c'est des conditions particulières. Mais justement, comme ils ont le temps de ne penser qu'à ça, je me demandais dans quel état on sort de ça.
Bibiana, cette épopée mythique qui vous a inspirée, que vous décrivez dans votre livre, est aussi basée sur des faits historiques méconnus. Pourquoi vous l'incarnez à travers différentes voix, différentes langues, différents personnages ?
Bueno, primeramente se llamó epopeya justamente porque cuando yo pude visualizar la historia completa en mi cabeza, aún antes de pensar en escribirla, me pareció realmente como un mito griego, como un mito griego moderno, pero en realidad un mito que además es una historia, por un lado, del siglo XIX, pero tremendamente moderna al mismo tiempo, porque es una situación que se sigue, digamos, repitiendo constantemente. Sabemos que es fatal como el destino que va a haber en algún punto del mundo personas desesperadas que se van a marchar de su tierra de origen y probablemente va a haber gente sin escrúpulos que se va a intentar aprovechar de ellas. Y ahora entro con lo de las voces.
C'est une épopée qui, justement, m'a fait penser dès le départ à sa proximité avec un mythe grec. C'est une histoire du 19e siècle, mais à la fois c'est très moderne, car l'histoire se répète, c'est une fatalité. Il y aura toujours des personnes désespérées qui vont quitter leur terre et, une fois arrivées, des personnes sans scrupules vont profiter de cela.
Y claro, esta historia no estaba oculta, estaba ahí, simplemente nadie la conocía. Y la clave para que nadie la conociese era justamente que no teníamos los testimonios de los protagonistas, no teníamos las voces de ellos, teníamos voces de autoridades que hablaron por ellos. Entonces, para mí la clave para hacer justicia con esta novela era, bueno, pues a través de la ficción recuperar las voces de los protagonistas y darles la dignidad y darles la oportunidad de hablar por sí mismos, ya que la realidad no se lo permitió, bueno, pues intentar con la ficción corregir a la realidad. Y para eso el narrador tenía que ser múltiple y tenían que venir traer desde el pasado todas esas voces para que hablasen a veces individualmente y a veces en modo colectivo y nos contasen a las generaciones posteriores qué les había pasado con sus propias palabras y desde su punto de vista, ya que no habían podido hacerlo en justicia.
C'est une histoire qui n'a pas été cachée, mais qui tout simplement était méconnue. Et ce sont des voix et les autorités ont parlé à leur place. Il a fallu faire justice, ça c'était mon objectif, leur donner une voix parce que c'était leur rendre leur dignité. Parler même grâce à la fiction. Cela a été une manière de corriger la réalité, de faire revenir le passé et de le raconter aux générations postérieures.
Géographiquement, vous nous entraînez toutes les trois dans des coins très très différents de la planète. Madeleine, avec vous, on se situe à New York, que vous décrivez comme étant sacrément, salement et merveilleusement humaine. Pourquoi cette ville vous inspire tant et pourquoi vous aviez envie de nous la montrer sous des angles très différents, que ce soit à travers les quartiers, les couches différentes, les couches sociales qui peuvent être à l'opposé et toutes ces diversités. Ces diversités de cultures, ces diversités de migrants, ces diversités de langues.
Je pense que le point, la diversité de langues, cette ville qui a accueilli tant d'émigrés au fil des siècles, on le sait, on le connaît par la littérature, le cinéma. Mais moi, mon point de départ, c'est mon premier voyage à New York. Je m'attendais à voir une ville. C'était au XXe siècle encore, j'étais très jeune, mais je m'attendais à voir une ville moderne, glacée. Et tout de suite, quelque chose m'a frappée. Je me suis dit, je suis dans une ville européenne. J'ai été frappée par les vieux quartiers, et il en restait beaucoup, et il en reste encore beaucoup. J'étais frappée par l'anachronisme, en fait. J'avais pas du tout imaginé. Oui, je savais les buildings en briques avec les fameux escaliers de secours, mais j'ai eu l'impression de me retrouver dans une ville pas tous les quartiers, mais pour la plupart, du 19e. J'avais l'impression d'être fin 19e. Et du coup, je voyais ces arrivées. Les quartiers, à ce moment-là, c'était fin des années 80, il y avait encore vraiment une vraie Little Italy qui n'avait pas été grignotée encore par les Chinois. Mais c'est surtout, je venais de Paris, où je me disais Paris, évidemment à Paris on voit le 19e, le 18e, le 17e, on voit tous les siècles. Et je me disais Paris c'est une ville d'histoire, avec un grand H. Et quand je suis arrivée à New York, je m'attendais quand même si on me disait, tu sais, c'est quand même particulier, New York c'est à part de l'Amérique, je m'attendais quand même à une ville américaine, et j'étais frappée de découvrir une ville européenne et une ville d'histoire, mais avec un petit H, si j'ose dire, mais c'est pas péjoratif du tout, et avec 1000 S derrière. Et je crois que c'est à partir de cette... J'ai vraiment eu un choc et une émotion. J'ai trouvé ça poignant, en fait. Je crois que j'ai vraiment trouvé ça extrêmement poignant. Et quand je voyais, quand on parle par exemple des communautés, je voyais des Italiens, mais j'avais l'impression de me retrouver, j'ai pas vécu ça bien sûr, mais à Palerme dans les années 50, quand le quartier juif, je me dis, mon Dieu, mais ça c'est Varsovie les années 20. Mais c'est vrai que y avait un déplacement dans le temps et dans le passé que, paradoxalement, je ne vivais pas dans nos villes monuments. Et je pense que là, vraiment là, c'est parti de là. Je me suis dit, je New York, pour moi, c'est vraiment ça. Et je suis partie de ce choc, je ne m'attendais pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de raconter ces histoires. Et en plus, dans une période pas forcément contemporaine. Ça ne se passe pas en 2020. Et de faire cette traversée. Pour aussi comprendre, aussi pour moi, peut-être.
Vous parlez de déplacement et dans votre roman, Sandrine, vos personnages vont se déplacer dans différents lieux, mais il y a néanmoins un élément qui reste le même partout, c'est celui de la prison. La prison au sens premier en France, la prison d'un bateau, puisqu'ils vont être littéralement emprisonnés en mer. Et puis il y a ce paradoxe aussi d'être emprisonné dans cette nature incroyable, pas tout à fait comme ici, on peut le dire. Et vous l'écrivez justement qu'ils sont séquestrés en pleine nature sur une presqu'île sans muraille, juste la mer. Et néanmoins, c'est une terrible prison qui va agir aussi sur leur prison mentale.
C'est une prison à l'air libre, oui. Effectivement, il s'agit en fait de personnes qui passent 10 années emprisonnées, dans des lieux assez divers. Mais du coup, l'emprisonnement ne dépend pas effectivement du fait d'avoir 4 murs autour de soi, même si ça paraît quand même préférable d'avoir 1 kilomètre autour de soi pour faire sa promenade qu'avoir des murs. Non, la plus grande prison, bien sûr, c'est le fait d'être loin de tout ce qui fait votre vie, en fait. En plus, à cette époque-là, bien sûr, les gens ne voyageaient pas. Donc, à peu près tout le monde, enfin, tous ceux qui ont été expédiés en Calédonie, c'est la première fois qu'ils quittaient la France, voire c'est la première fois qu'ils quittaient Paris, voire leur quartier. Donc, et à l'époque, c'était pas, le voyage n'était pas un magnifique exotisme, à part pour quelques happy few. Donc, l'emprisonnement, en fait, c'est avant tout le fait d'être sorti de ce qui fait votre vie, votre famille, votre travail, votre combat aussi. Et c'est plus l'exil, je pense, que l'emprisonnement physique qui pèse en fait dans toute cette aventure.
Au départ, dans votre roman, Bibiana, c'est un exil volontaire puisque ces jeunes vont quitter leur terre et néanmoins, ils ont beau être de l'autre côté de la planète, la Galice continue à vivre en eux comme pour tous les immigrés de la terre. En quoi est-ce que vous diriez que cette terre est elle-même une terre d'immigration au 19e et 20e siècle et en quoi elle s'est inscrite dans les mémoires actuelles, dans les générations comme la vôtre ?
Bueno, en realidad es que yo creo que no hay nadie en Galicia que no tenga en su familia memoria de la inmigración. Todos tenemos memoria de la inmigración. En mi caso, yo he tenido y tengo familia en Brasil, en Uruguay, en Santo Domingo, en Suiza y en Francia. Estoy en la media, no soy nada extraordinario. Esto es lo normal, o sea, lo raro, lo extraño es no tener memoria de emigración. Esta memoria además está guardada no solamente en nuestra memoria física, por supuesto, sino en la literatura. Toda nuestra literatura está atravesada por la emigración. De hecho, hay uno de los grandes poetas gallegos ha dicho justamente pues que nuestra gran epopeya, la gran epopeya cultural de los gallegos es la epopeya de la emigración y desde la base primera de la poeta, digamos, madre de la patria, de Rosalía de Castro, que en sus primeros poemas ya le da nombre a esa melancolía de la tierra que se llama morriña, que es yo creo que la única palabra en gallego que hemos exportado al mundo es justamente esa melancolía del lugar en el que tú has nacido, porque claro, al final casi ya se convierte en una cuestión genética, ya que tanto si tú has emigrado como si los tuyos se han marchado, siempre vas a tener una herida sangrando dentro de ti que tiene que ver con el partir, el marcharse y el tener las familias literalmente partidas por la mitad.
Je ne connais personne en Galice qui n'ait cette mémoire de l'immigration, puisque c'est vraiment un trait général d'avoir dans sa famille des immigrés, donc des émigrés. Dans mon cas, c'est le Brésil, l'Uruguay, Saint-Domingue, la Suisse et la France qui ont été les terres de l'émigration de ma famille. Et c'est ce qui est normal, en fait, en Galice, puisque c'est une mémoire qui est gardée physiquement et dans la littérature galicienne. Les auteurs galiciens, donc un auteur en particulier, a parlé de l'épopée culturelle comme une épopée de l'immigration. Et la plus fameuse écrivaine galicienne, Rosalie de Castro, a forgé le mot « morriña », qui signifie « mélancolie de la perte du lieu », donc le lieu d'origine. Et c'est un des seuls termes galiciens qui s'est exporté, puisqu'il est connu de tous les hispanophones. Et donc, si tu as émigré, ou si une personne de ta famille est partie, tu ressens forcément cette blessure.
Cette blessure, cette nostalgie, on a l'impression au départ que Dorman ne la ressent pas. Pourtant, il a quitté son pays dans des circonstances tragiques. Il dit qu'on quitte sa jeunesse, dans son cas en 1961, comme on quitte le nid familial pour devenir adulte. Quel type d'adulte il devient avec cette blessure-là, avec ce bagage d'exilé qui essaie de se réinventer dans cette terre d'Amérique qui est celle de toutes les promesses et qui peut être celle aussi de toutes les désillusions?
Alors déjà, quand il part, il est déjà adulte. Moi, je le fais naître en 33, donc il a presque 30 ans. Mais dans l'insouciance sous le ciel algérien, il est resté encore adolescent. Donc sa vraie vie d'adulte commence quand il n'a plus personne autour de lui et donc qu'il s'en va à New York. Vous pouvez me répéter juste la fin de la question, parce que je commence à faire des digressions. Tu peux me répéter le.
Oui, bien sûr, il y a pas de problème. C'est sur le fait que. Mais je l'imaginais.
Oui. Ça y est, j'y suis. Non, j'avais pas perdu, mais je prenais le point de départ. Non, je pense que l'adulte qu'il regarde toujours devant. Je suis pas sûre qu'il soit nostalgique. Je pense qu'il est plutôt. Il y a une mélancolie, je pense, dans le livre, il y a une mélancolie, mais qui vient aussi de sa personnalité, la contemplation, son retrait apparent. Mais je ne pense pas qu'il y ait de nostalgie, parce que j'ai vraiment, pour moi, je le disais hier, c'est vraiment l'homme qui marche, dans tous les sens du terme. Il marche vraiment dans la ville, il marche dans sa tête, il avance. Il n'a pas vraiment de projet, il n'a pas vraiment de but, il travaille et il avance. Et ce sont ces rencontres qu'il fait incidemment ou pas, qui sont des accidents, en l'occurrence pour les personnages les plus proches et qui reviennent merveilleuses, ce sont ces rencontres-là qui vont faire ce qu'il est, qui vont vraiment le reconstituer, mais oui, constituer l'adulte, l'être humain qu'il va devenir dans cette ville, tout en gardant. Et ça, c'est aussi, voilà, tout en gardant tout de même ça, il ne va pas devenir un Américain, jamais. Il ne sera jamais un Américain. Mais voilà, il va se. C'est vrai qu'il est très tourné vers les autres, mais il ne s'oublie pas non plus. Mais c'est, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Ce sont les rencontres. Mais comme je le disais, pardon, je reviens sur hier, je disais, moi, pour moi, ce sont vraiment les rencontres qu'on fait. Qui nous constitue en grande partie. On a nos traits de caractère. Mais justement, ces traits de caractère-là peuvent se nuancer, se colorer, s'accentuer selon les rencontres qu'on va faire. Et pour moi, la rencontre avec les autres, enfin voilà, c'est vraiment ça qui nous constitue. Si on reste tout seul, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on peut écrire et que si on invente des histoires, on n'est pas tout seul.
On s'ennuie avec soi-même en plus.
Vos personnages, ils ne sont pas tout seuls, mais néanmoins, ils sont arrachés à leur famille, arrachés à leur pays. Ils voient aussi le temps passer. Ils comprennent petit à petit, comme vous l'écrivez, que la France s'est littéralement débarrassée d'eux, les a jetés au loin. Et ils disent que plus les années avancent, plus cet exil ne cessera jamais. À quoi est-ce qu'ils se raccrochent ? À quoi est-ce que cette nostalgie les pousse aussi peut-être à espérer, à désespérer, à passer par toute une palette d'émotions.
Ils passent vraiment par, exactement comme ça, par toute une palette d'émotions et elles peuvent être presque d'ordre euphorique en se disant on rentre bientôt, bien sûr tous les signes sont là, au désespoir le plus profond. Quand des nouveaux déportés arrivent, c'est un signe très négatif. Ça n'est pas le fait, voilà des gens avec qui on ne s'est pas déjà tout dit, on va pouvoir enfin avoir des nouvelles conversations. Non, c'est le signe que la France continue à vomir tous ces communards et donc elle continue à ne pas vouloir les réintégrer dans la nation. Donc plus ils sont nombreux, plus ils sont désespérés, je dirais. Alors à quoi ils se raccrochent ? Je pense qu'ils se raccrochent pour les plus fermes. Ils arrivent à s'accrocher toujours à l'espoir de revenir en France. Encore une fois, leur vie n'est que là. Il n'est hors de question qu'elle se constitue ailleurs. Et sur les 4000, 5 resteront en Nouvelle-Calédonie. 5. Donc rien, en fait. Donc leur vie est toujours ailleurs. Et ça pourrait durer 20 ans, ce serait, je pense, la même chose. Ce qui fait les fait tenir, c'est de retourner au pays, de retrouver les leurs. Et de les retrouver n'est pas innocent, parce que beaucoup des leurs ont refait leur vie, parfois par nécessité. Et donc ils ne savent pas aussi ce qu'ils vont retrouver. Donc, on se raccroche à ça, mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui les fait désespérer, qui les fait dévisser de la falaise parfois, et certains n'arrivent pas à remonter, qui est de comprendre que sa femme, sa compagne a refait sa vie, que les siens, que vos enfants vous rejettent, et que donc quand on retournera, il n'y aura peut-être en fait rien. D'autant qu'en plus, 10 ans, ça peut être long pour ceux qui étaient, et c'est très usant. Et du coup, on peut aussi retourner, quand on retourne, on peut aussi ne plus être capable de travailler quand on est un travailleur manuel. Donc en fait, ils se raccrochent à cette idée que tout peut recommencer, au moins une vie normale, tout en sachant, et parfois c'est ça qui affleure à nouveau à la surface, qu'en fait, dans certains cas, rien ne recommencera.
C'est aussi le cas de vos personnages, Bibiana, puisque eux aussi, ils partent en changeant, parce que c'est aussi le cas dans votre livre. Évidemment que ces années qu'ils vont passer en Nouvelle-Calédonie font qu'ils ne seront plus jamais les mêmes qu'au départ. Et là aussi, c'est le cas de vos héros, Bibiana, puisque ces 1700 jeunes, je le rappelle, c'est quand même énorme, ont choisi de quitter leur pays, arrivent sur cette terre qui a priori a l'air extraordinaire, merveilleuse, qui ressemble à un nouvel Eldorado. Et néanmoins, bah, ils vont devenir des esclaves, ils vont être piégés. Est-ce que vous diriez dès lors qu'ils sont réduits à un double exil, à la fois cet exil de leur terre natale, mais aussi un exil intérieur où on cherche à les déshumaniser ?
Sí, desde luego, es un doble exilio, está muy bien definido. Yo creo que justamente Azucre como novela existe porque ellos, aún pese a ser gente no educada, a ser muy jóvenes, porque las edades están entre 14 los más jóvenes y 21 años los mayores, aún así, cuando se encuentran con esta situación de esclavitud, ellos se rebelan, ellos no la aceptan y se amotinan. Y eso es lo que hace justamente que esta historia sea extraordinaria. Y para mí fue el último empujón para entender que tenía que contarla, porque que gente tan joven, sin la educación, evidentemente, en derechos humanos y sin una conciencia de sí, porque venían de un ambiente muy humilde, y de repente entiendan que no deben aceptar una situación de injusticia para con ellos porque no les tratan dignamente, para mí me resultó extraordinario leer eso que eso sucedió. Además, cuando sabes que no tienes, en aquel momento ellos no sabían si lo que tenían por delante era apenas la muerte o la libertad, no había ninguna alternativa. Entonces, a mí me pareció, por ese lado, absolutamente extraordinario. Me parece que hay algunas veces que justamente la ansia de dignidad es como una planta extraña que aparece en momentos desesperados y a mí me hizo sentir, por una parte, además, muy, muy orgullosa de esta historia. Entonces, por eso también creo que era merecido que fuese contada, porque no bastaba que estuviesen en el otro lado del mundo sin saber probablemente ni siquiera geográficamente dónde estaban y que reclamasen su dignidad, me parece absolutamente extraordinario.
Donc en effet, c'est un double exil, c'est très juste cette définition. Et à Sucre, c'est justement cette histoire de jeunes qui n'ont aucune éducation, qui vont être réduits en esclavage et qui vont se rebeller. Et l'impulsion qui m'a décidée finalement à écrire pour le comprendre, ça a été le fait de voir que ces jeunes n'avaient aucune connaissance des droits de l'homme, mais qu'ils ont compris malgré tout qu'on ne les traitait pas dignement. Et autrefois, ou dans d'autres circonstances, la recherche de la dignité a été un moteur dans des moments désespérés. Et je suis vraiment fière de cette histoire, parce que donc eux, ils ne savaient pas vraiment où ils étaient géographiquement. Donc nous, aujourd'hui, on peut en parler.
Merci. Ce qui lie aussi tous vos personnages ou vos romans qui ont l'air en apparence très différents, c'est cette quête d'idéologie, c'est cette quête de liberté auxquelles ils vont être tous confrontés d'une manière ou d'une autre. Pour Dorman, il dit que ne plus avoir de famille, c'est une immense liberté. C'est vrai qu'on voit que c'est un homme qui n'a pas de limite. Il marche pendant des heures, il traverse tous les quartiers. Est-ce que ça fait de lui un homme libre ? C'est quoi finalement son idéologie à lui, c'est quoi ses aspirations?
Alors évidemment, je pense, oui, il y a peut-être un point commun, mais je pense que mon Dorman, modestement, ne s'inscrit pas dans une quête de liberté politique, sociale. C'est plutôt une liberté tout à fait individuelle, quotidienne, simple, qu'il peut vivre grâce en effet au fait qu'il n'est plus rattaché par les liens familiaux qui peuvent quelquefois, souvent, vous tirer en arrière ou voilà, sa liberté par-delà. C'est pour ça aussi que quand je reparlais de ces épisodes tragiques des deux guerres, c'est vraiment un homme, en tout cas, libéré. Après, je ne sais pas, la question de la liberté, est-ce qu'on est libre ? Lui-même, en effet, il ne va pas s'attacher une famille, une nouvelle famille, même une femme, des enfants, mais il va quand même, parce que c'est humainement logique et il ne peut pas faire autrement, et je parlais des rencontres, il va s'attacher à des amis. Bon, c'est des choix. Voilà, c'est la famille qu'on se choisit qui est quand même très souvent la plus précieuse, parce que c'est elle qui va vous entrer dans votre cœur et vous accepter sans aucun a priori. Donc j'ai vraiment contre la famille là, j'ai pour celle qui était là hier, mais et je pense qu'en fait il n'est pas tout à fait libre puisqu'il va s'attacher et l'attachement provoque au bout du compte, puisque attachement après il y a toujours rupture, hein, quelle qu'elle soit, que ça soit la finale, la mort. Attachement veut dire aussi chagrin, donc une liberté relative, mais bon, oui, parce que la vraie liberté, je ne sais pas.
Sandrine, vous parlez d'Étienne qui dit que bâtir une république libre, une société égalitaire et solidaire, c'est vraiment ce qui l'anime. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme qui reste fidèle à lui-même tout au bout, malgré les épreuves, et avec cette envie justement de se créer cette liberté intérieure pour continuer à cultiver cette idée-là ?
Plus que fidèle à lui-même, je dirais qu'il découvre ce qu'il est, puisqu'il se rend compte que quand il s'est engagé, c'était quelque chose d'assez suicidaire. Il ne se savait pas suicidaire, si je puis dire. Donc en fait, il découvre ce qu'il cherche, je pense, dans la vie. Il le découvre parce qu'il est en exil. Et il est parti dans un élan. Il y a eu un formidable élan populaire. Des gens y sont allés par idéologie pour sauver la République, mais beaucoup y sont allés parce que depuis des générations, ils en avaient marre de se faire écraser. Lui, il ne fait pas partie d'un milieu social où on est écrasé. Il n'a pas de raison de suivre cette impulsion. Donc au début, c'est une impulsion pour lui intellectuelle. Elle reste intellectuelle. Ça devient vraiment lui-même quand elle descend et qu'elle devient quelque chose qu'il a là. Et il lui faut ce temps d'exil. Et il lui faut surtout côtoyer des gens dont ça fait 40 ans, 60 ans qu'eux, ils vivent ça, et du coup, qu'ils ne vivent que ça, donc que c'est devenu eux-mêmes, pour comprendre que ce qu'il a cherché en participant à la Commune, pour comprendre aussi ce qu'il va vouloir aller chercher plus tard dans sa vie, puisqu'il est jeune, il a le début de la vingtaine, donc on peut dire qu'il a encore tout à construire, même s'il y a des moments, il a plutôt l'impression, en voyant comment évoluent ses camarades en France, que tout est perdu. Donc moi je dirais que plutôt qu'être fidèle à lui-même, ou même fidèle à une idée, il découvre ce qui va en fait vraiment animer sa vie.
Dernière question, elle est pour vous, Bibiana, c'est que cette leçon de la vie, on la retrouve également chez vos personnages qui vont se heurter à tellement d'épreuves, à des choses tellement violentes et inattendues que forcément ils vont s'en retrouver transformés. On ne peut pas ne pas lire ce livre en ne songeant pas à l'écho avec les migrants actuels, avec tout ce qu'ils peuvent vivre ou traverser également aujourd'hui. Qu'est-ce qui les anime finalement, ceux d'hier ou aujourd'hui, cette envie de vie meilleure, cette envie de liberté aussi ?
Pues bueno, al final yo creo que la gran lección de todo esto es que a veces cuando miramos a las personas del siglo XIX parece que estamos hablando de gente de otra especie, de que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo, el cambio que el mundo experimentó en el siglo XIX hasta hoy en día, la vida se ha sofisticado mucho tecnológicamente, pero las personas somos prácticamente iguales. Lo que buscamos en la vida pues es un trabajo que nos satisfaga, ganar lo suficiente, tener que comer, tener a personas que nos quieran, pero en el fondo las personas somos las mismas. Yo creo que justamente tanto entonces como hoy en día la búsqueda siempre es la misma, tanto por un lado tener una vida digna como por otro lado, en el caso de que estés esclavizado, pues buscar la libertad. La parte buena es que en este momento nosotros ahora estamos en, digamos, en el lado favorecido de la historia o del mundo, si quieres, pero no hace tantas generaciones atrás pues fuimos de aquellos que tuvieron que marcharse. Y como decíamos al principio, esta cuestión es cíclica y estos casos se siguen repitiendo. Entonces yo creo que justamente es eso. Esta era la moraleja de la historia de mi novela, que cuando miramos alrededor vemos constantemente gentes desesperadas, pues bueno, o que cruzan el Mediterráneo, o que vienen desde África, o que vienen desde Latinoamérica, que pasan de México a Estados Unidos. El mundo está lleno de ejemplos como este.
En fait, on peut tirer la même leçon des histoires du 19e siècle et de ce qui se passe actuellement. On pourrait croire que ce sont des gens d'une autre espèce, puisqu'on a une vie très sophistiquée aujourd'hui, mais en fait, les gens n'ont pas tant changé que ça. On veut tous gagner de l'argent, avoir des personnes qui nous aiment. Et c'est toujours le même fonctionnement. Et on voit cette situation d'esclavage, alors qu'aujourd'hui, de notre côté, donc en Espagne, on peut dire, on est du bon côté de l'histoire, donc on est plutôt favorisé si on pense à tous ces migrants actuels. On pense quand même à ceux qui ont dû partir avant et au fait que c'est tout à fait cyclique. La morale du roman, c'est qu'on voit toujours des gens désespérés. On peut penser aux personnes qui viennent aujourd'hui d'Afrique ou d'Amérique latine.
Merci Florence. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour des questions du public? Parfait. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont des questions pour nos trois auteurs, n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera la parole. Claude.
Donc c'est pour dire à quel point Madeleine Assas s'est mise dans la peau d'immigré. C'est une rencontre à New York. Personne ne savait que j'étais à New York. Détrompe-toi, mon ami. Tu sais, la cousine Émile. Mais oui, insiste-t-il en voyant mon air interrogateur. La fille de tonton Eugène, le frère de mon père, la sœur de Fortune, celle qui est morte à 10 ans de la rougeole. Enfin bref, elle a su par un frère de ton copain de Marseille. Tu t'en rends compte comme le monde est petit. C'est tout à fait, je pense, la façon dont les immigrés se retrouvent par hasard. On va parler de chez soi, du monde qu'on a perdu. Mais ça, c'est pas une question, mais la question, elle est là.
Suspense.
Ouais. Pas plus. Je pense que lorsqu'une femme est libre, sa liberté est toujours plus grande et plus belle que celle d'un homme. Les femmes sont plus fortes, c'est certain. C'est une
question. Claude, tu as un doute.
C'est une affirmation. La question, c'est quoi, Claude ?
Est-ce que les femmes sont plus...
Que les femmes sont plus fortes ? Oui. Oui, enfin, oui, je pense qu'il y a quelque chose, mais qui est peut-être... je pense qu'on n'a pas de muscles. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Enfin, pour moi, c'est évident. C'est pour ça que je suis forte. Non, je veux dire, elles n'ont pas de muscles, mais je pense qu'il y a quelque chose, mais qui est peut-être aussi physiologiquement, voilà, je pense qu'on est peut-être forte, allez, messieurs, résistante, voilà, résistante, et peut-être il y a des choses, on est plus radical, on est peut-être plus radical par moment. En tout cas, moi, je le suis. Non. Voilà, non, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles la mauvaise foi est quand même très masculine.
Mais c'est paradoxal parce que je trouve que nos sociétés, mais toutes nos sociétés occidentales, pas la France, je veux dire, enseignent aux hommes, je pense, depuis leur plus jeune âge, un homme c'est fort Je pense que toujours aujourd'hui, on leur dit toujours ça pleure pas, alors que les filles, elles ont droit de pleurnicher, etc. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore beaucoup comme ça. Donc en fait, tu as raison. Oui. Les femmes étant trop fortes, oui, on enseigne aux hommes qu'en fait, c'est eux qui le sont pour qu'ils finissent par y croire.
Une autre question.
Oui, bonjour, oui. Madeleine Assas. Première question. Pourquoi faites-vous revenir le Dorman en Algérie ?
Et vous m'avez posé question... la question hier.
Non, mais je l'ai posée différemment. Là, oui, je la pose différemment. Mais si vous ne voulez pas y répondre, c'est libre à vous.
Madeleine,
hein.
Change la réponse.
Oui,
en fait.
Si vous ne voulez pas partager
pourquoi je fais revenir le Dorman
en Algérie ?
Je ne le fais pas revenir. Oui,
il est... Non, mais vous savez pas. Bon, ben voilà.
Oui, alors hier, j'ai dit je ne sais pas, je vais vous dire. C'est le Dorman. Ce n'est pas moi qui fais revenir le Dorman en Algérie. C'est lui qui retourne.
D'accord. Ok, très bien. Et ouais, voilà. Ouais. Bon. Ok. Et
il n'est pas content, hein.
Non, mais bon, ça répond pas à ma question, mais c'est pas grave, ça. Okay.
Je vous l'ai dit. Et écoutez,
Est-ce que vous auriez pu envisager un Dorman, un homme un peu plus fort? On a parlé de faiblesse et de force. Est-ce que vous auriez pu envisager un Dorman avec un homme qui a envie de construire plus sa vie? Donc voilà, avec... on a le droit de poser des questions.
Oui,
donc
oui,
je
bien
pose
sûr.
Une question, voilà.
Mais ça aurait été un autre Dorman.
Je ne voulais pas que je pose de questions.
Ça aurait été un autre Dorman. C'est un autre personnage, c'est une autre histoire. Moi, mon Dorman, il est comme il est, voilà. Ça aurait pu être aussi, je sais pas, une femme. C'est mon Dorman, il est comme ça. C'est cette histoire-là.
Après, chacun a son Dorman imaginaire.
Oui.
Et une autre question, Dominique.
Alors, je veux vraiment, je crois que les questions, il y a plus trop le temps. Donc, c'était pour vous remercier, mesdames, puisque là hein, on ne peut pas dire le pouvoir au livre, c'est vous. Voilà. Merci à toi, Keren, pour tes... Voilà, c'est toujours super. D'avoir fait naviguer... Je suis là, pardon, excuse-moi, Madeleine. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier. Pour Madeleine, en même temps, il y a une romancière qui aurait pu être là cette fois-ci, parce qu'elle est invitée en plus, parce que ce n'est pas son premier livre. C'est, ça va revenir, Alice Kaplan, si vous avez lu donc, la Maison Atlas. Moi, j'ai trouvé vraiment un lien, même si c'est effectivement un juif qui ne veut pas quitter là-bas. Et c'est... Ben voilà, bravo. Et puis, je voulais aussi vraiment remercier la traductrice. Bravo.
Bravo, Florence. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous trois. Merci à Florence. Muchas gracias para Bibiana. Et merci à vous pour votre attention. Profitez encore bien de ces beaux moments magiques.